Si je vous dis dopamine, ça vous dit quelque chose. Sérotonine aussi. Mais est-ce aussi le cas de l'acétylcholine ou du GABA? Ce sont pourtant des neurotransmetteurs qui sont au cœur de notre équilibre, de la gestion de nos émotions, du stress, du sommeil, et donc de notre capacité à être en forme physique et mentale. Et donc aussi en mesure de bouger et de faire du sport. Dans cet épisode, vous allez découvrir un monde fascinant qui montre l'intérêt de la micronutrition. Mais n'ayez crainte car mon invité est très attaché à la simplicité. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans cet épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running 42. Et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et je pars ainsi à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Dans le but que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir mieux, bouger mieux, réussir nos défis et devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Anne Nguyen, docteur en pharmacie, qui s'est aussi formée à la naturopathie, encore à la micronutrition et bien d'autres choses dont elle explique pourquoi et comment elle associe tout ça. Avec Anne, mon idée était d'explorer un peu plus comment se sentir bien dans sa tête et dans son corps par les habitudes et par l'alimentation, dans une idée que nous avions déjà évoquée dans un épisode précédent, qui est qu'avant de s'intéresser précisément à la nutrition sportive, au côté purement sportif, il faut d'abord créer le socle de base pour être en forme et pour pouvoir donc ensuite nous entraîner. D'ailleurs, comme l'explique Anne, le sportif a encore plus besoin des ressources dont nous allons parler dans cet épisode, car il en demande plus à son corps, donc il est encore plus important de veiller à l'équilibre. Et un sujet que je voulais particulièrement explorer, c'est celui des neurotransmetteurs, de leur impact sur notre vie quotidienne, via le rôle qu'ils jouent dans notre équilibre, nos émotions, le stress ou encore notre sommeil. Dans cet épisode, nous allons donc parler de ces fameux neurotransmetteurs type dopamine, acétylcholine, sérotonine ou GABA. Vous comprendrez leur importance sur notre fonctionnement, mais aussi l'importance de notre alimentation pour avoir les bons équilibres au niveau de ces neurotransmetteurs. Et nous avons en particulier parlé de l'importance des protéines tout au long de la journée, mais aussi des micronutriments. Nous avons donc parlé de quelques stratégies alimentaires, mais aussi de stratégies pour gérer des produits qui apparaissent comme toxiques. Je pense notamment au poisson. Faut-il manger du poisson? Dans quelles conditions? Comment? Vous allez voir que mon invitée, elle a une stratégie qui est assez simple. Si ce sujet, d'ailleurs, vous paraît compliqué, celui des neurotransmetteurs, vous allez apprécier la qualité des explications d'Anne, qui est très claire, que je vous rappelle d'ailleurs qu'elle est docteur en pharmacie. Et en plus, elle est très attachée à l'individualisation et aussi à la simplicité. Ce qui nous ramène donc dans la discussion aux produits bruts, à des recettes ancestrales ou très simples et que vous connaissez tous, mais que peut-être parfois on oublie un petit peu. Nous avons aussi parlé du stress et de notre capacité à le gérer ou pas, et notamment en utilisant certaines techniques comme la respiration, la cohérence cardiaque, mais aussi comment notre corps doit avoir les ressources pour supporter ce stress chronique et comment ce stress chronique justement vient grignoter nos ressources. Et vous allez comprendre un petit peu la difficulté, le cercle vicieux dans lequel on peut tomber. Et puis à la fin, vous découvrirez aussi le lien entre notre personnalité et le neurotransmetteur qui domine potentiellement chez nous. Je pense alors que vous vous reconnaîtrez, que vous reconnaîtrez vos proches et que ça vous donnera des clés pour privilégier des habitudes ou certains aliments. Par exemple, vous comprendrez pourquoi ma banane au goûter avec quelques oléagineux, qui est mon goûter préféré, est une idée qui ne fait pas que calmer un petit creux, mais qui a un impact bien plus large dans mon corps et dans ma tête. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Anne, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous partageons des conseils de sportifs, de coachs et spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée avec des produits naturels et bruts à cuisiner. D'ailleurs, dans cet épisode, avec Anne, nous parlons par exemple de produits bruts, de l'agineux, de beurre de cacahuète, de purée d'amande. Et bien, mon fournisseur préféré pour certains de ces produits est Koro, K-O-R-O.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Et je dois dire que la purée d'amande cannelle vanille a notamment beaucoup, beaucoup de succès à la maison. Mais je commande aussi sur la boutique en ligne Koro, du beurre de cacahuète, des amandes en vrac, des cacahuètes en vrac ou encore du tofu. Koro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, j'ai négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Koro, kaoero.fr et utiliser le code HAMSTERS5 pour en profiter. Le lien est dans la description de l'épisode. Je remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Anne. Allez, c'est parti. Bonjour Anne.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Je vais bien. Je vais bien depuis Montréal, ça va?
Et oui, aujourd'hui on a traversé l'Atlantique pour partir au Canada, et c'est pas souvent que j'ai des invités comme ça, on traverse, j'en ai eu quelques-uns. En général, j'ai toujours une question de savoir quel temps il fait. Il fait beau, si c'est un temps à aller courir, aller marcher, aller prendre l'air. Mais je sais que toi, la météo, ça change pas grand-chose sur le fait d'aller prendre l'air.
Oui, parce que ça, c'est vrai que je sors quel que soit le temps. Enfin, j'essaye quasiment tous les jours de marcher, ce que je dis, je répète régulièrement aussi sur mon compte, parce que c'est important de prendre l'air, de bouger, le mouvement, etc. Mais je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. Et aujourd'hui, c'est très gris. Petite micro-neige ce matin. Donc, on dit qu'au Québec, il y a 11 saisons. Là, on est dans le dernier hiver.
D'accord.
On a eu une semaine printanière la semaine dernière. Là, on retourne dans une semaine d'hiver. Donc, c'est très changeant, mais et c'est très important la météo ici à Montréal. Et donc, aujourd'hui, c'est gris, mais bon, je suis quand même sortie.
Je disais en intro que tu sortais par tous les temps, parce que même en plein hiver et tout, c'est fait vraiment partie de tes habitudes de vie. Hein.
Oui, je pense que la marche, en fait, ça permet de combiner à la fois le fait de respirer l'air frais, de sortir, s'exposer à la lumière naturelle, donc d'intégrer du mouvement, donc d'activer un petit peu sa circulation, ses muscles, voilà, le retour veineux, etc. Donc, je pense que prendre 30 minutes, moi, j'ai installé ma petite routine, je dépose mon fils à l'école, je vais marcher. Quel que soit le temps, je ne prends pas mes rendez-vous, mes appels à ce moment-là, donc entre 8h30 et 9h15 en général du matin, et je vais faire ma petite marche. Si j'ai des choses à faire, je les fais après. Mais ce temps-là, voilà, je me mets soit un podcast, soit je passe des appels, et soit je profite simplement de la vue, des maisons, du quartier. Voilà, j'ai vraiment instauré cette routine-là, parce que, et puis quand je le fais pas, ça me manque énormément, mais et en plus du sport que je peux faire dans la semaine ou autre, c'est vraiment ce temps-là qui est dédié au mouvement, à l'exposition à la lumière naturelle, et c'est hyper important. On le verra, l'équilibre hormonal, le sommeil, tout. Enfin, moi, je peux pas m'en passer.
Oui, et c'est vrai, on en reparlera, mais moi je dis souvent à des gens, quand ils me demandent un petit peu, quand on discute, j'ai des questions aussi sur les gens qui disent « j'arrive pas à dormir », et des fois je leur dis « le meilleur moyen de dormir le soir, c'est de marcher le matin ». Alors ils me prennent un peu pour un fou quand je leur dis ça, mais en fait, moi je le dis avec mon expérience, mais sauf que toi, parce qu'on n'a pas fait les présentations, toi tu as toutes les connaissances scientifiques de tout ce qui va avec pour l'expliquer. Et c'est ça qui va être très intéressant, parce que moi, j'ai lu dans le livre et tout, mais toi, c'est vraiment ton sujet. Et ce qui m'amène à te laisser te présenter en quelques mots pour dire vraiment comment tu te présentes, toi, quoi.
Alors, moi, je suis Anne Nguyen, donc je suis docteur en pharmacie. J'ai étudié en France, j'ai travaillé en France, j'ai eu deux pharmacies en France où donc j'ai géré, mais j'ai toujours développé, en fait, cet aspect naturel de la santé. Vraiment, voilà, cette santé naturelle, parce que je trouvais que la prise en charge répondait vraiment à des attentes. Donc, il y a les médicaments, bien évidemment, il y a la prise en charge de la pathologie qui est complètement nécessaire. Hein. Je ne suis pas du tout encore opposée à la médecine conventionnelle, elle est très utile. Mais dans notre quotidien, dans notre mode de vie, ça a un impact. Donc, on parle beaucoup d'épigénétique, et c'est un petit peu vers ça que je suis allée, chercher. Dans la naturopathie, c'est ça que je suis allée chercher, en fait. Donc, j'ai fait tout mon cursus pharma, j'ai travaillé, mais j'ai toujours eu cet aspect, voilà, lié, c'est et la micronutrition, et la santé naturelle, et les plantes, et alors un petit peu moins l'alimentation au départ, parce que c'était pas ma formation. Quand on s'est expatrié, on a immigré ici au Canada, par rapport au travail de mon mari, j'ai dû un petit peu me réinventer. Je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir refaire, puisque mon diplôme n'est pas tout à fait reconnu ici. Il faut que je repasse une équivalence, etc. Et donc, je me suis un petit peu tournée vers la naturopathie. J'ai fait cette école de naturopathie ici à Montréal. Et ça a un petit peu complété, ça a pu parfaire un petit peu mon domaine de compétences pour cette prise en charge un petit peu globale, holistique, que je prône, parce que notre mode de vie, notre alimentation, le mouvement, l'activité physique que l'on intègre au quotidien, eh bien, ça impacte sur notre santé. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on peut parler de prévention santé, c'est quand on joue sur tous ces éléments-là. Et donc, c'est vers ça que je me suis tournée. Et en même temps que j'ai repris les cours de Naturo, j'ai créé un compte Insta. un compte Instagram où voilà, je parle de pas mal de conseils santé naturelle, de micronutriments, de marcher tous les jours, de ce que l'on peut faire voilà, pour gérer le stress, les différents piliers de la vitalité, comme on aime beaucoup en parler en naturopathie. Et donc ce compte a pris beaucoup d'ampleur. Et donc maintenant, je l'alimente énormément, je fais beaucoup de création de contenu et voilà où j'en suis actuellement. Et c'est un petit peu une passion, c'est un petit peu même un luxe de pouvoir en vivre et de pouvoir voilà, partager au maximum mes connaissances, mais plus que mes connaissances, ma vision un petit peu de la vision globale de la santé et cette prévention santé sur laquelle j'aime bien parler parce que je pense que voilà, ce que l'on peut faire à notre niveau, c'est préserver au maximum son capital vitalité, son capital santé pour bien avancer dans la vie et pour bien vieillir.
Oui, et ça c'est un grand cheval de bataille chez moi. Dans mon autre podcast, je dis que notre objectif à tous, c'est de devenir champion et championne du monde de notre monde. Ça c'est la partie sport, mais aussi des vieillards galopants, des vieillardes galopantes, hein, être en forme le plus longtemps possible. Comment on arrive à maintenir tout ça? Et c'est vrai que on peut pas prendre juste un élément de ces. On peut pas dire je me base que sur la nutrition, que sur le mouvement. Il faut vraiment la démarche holistique. On a souvent une vision un peu réductionniste des choses, en disant ah je mets un peu de ça, ça va suffire et tout. Et là où la naturopathie est intéressante, c'est que il y a des piliers, qu'il y a de nombreux piliers et que c'est vraiment l'ensemble qui permet de viser la forme, de bien vieillir, d'être en forme, mais aussi pour bouger, pour faire du sport, pour faire tout ce qu'on veut dans son quotidien.
C'est exactement ça. Alors moi, je ne suis pas dans une espèce de naturopathie très poussée, très hygiéniste. On parle beaucoup de détox. Je ne suis pas trop dans cette vision-là. Je suis plus pour... Mon terme préféré, moi, c'est l'équilibre.
Ouais.
Même mon mot préféré, je trouve que les extrêmes sont jamais très bons de toute façon. Donc, c'est pour ça que je prends un peu de tout et je me fais un petit mix. Donc un peu de naturo, un peu de micronutrition, voilà, un peu de phyto, un peu de médecine, enfin de médicale, de base scientifique, enfin même beaucoup. Et avec ça, je pense que tout mis bout à bout, c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien, les gestes que l'on cumule au quotidien, qui impacte réellement sur notre santé. C'est pas ce que on va faire une seule fois de temps en temps qui va jouer. C'est donc cet équilibre, il peut être bénéfique si justement tout est combiné à petite dose et ce qui est bien doit être régulier. En soi, la persévérance et la régularité, c'est ça qui paye. C'est un petit peu ça aussi, c'est comme ça moi que je vois la naturopathie, c'est tous ces gestes mis bout à bout au quotidien qui payent et c'est pas forcément des grands changements, voilà, c'est pas comme beaucoup pourraient le croire, manger des graines toute la journée et tout ce qui est vert, et c'est pas, ça ne se réduit pas à ça la naturopathie.
Ouais, heureusement, ça serait triste, hein, sinon.
Pardon.
Et non, mais voilà. Hier, alors je te le disais juste en intro, hier j'ai regardé le replay d'un live que tu avais donné dans une formation et j'ai été fasciné par ce que tu disais sur les neurotransmetteurs.
Oui.
Je pense que c'est un domaine qu'on ne connaît pas assez. En tout cas, moi, je sais que je connais pas assez, que on entend parler de certaines choses, etc. Et hier, tu as dit à un moment une petite phrase sur un truc du style. Ah, des fois on dit qu'on est fatigué à tel moment, on l'accuse un peu le coup de la fatigue, etc. Mais en fait, on se rend pas compte de ce qui se passe derrière, de tout ce qu'il peut y avoir derrière et sur quoi on peut jouer. Et j'ai trouvé ça mais fascinant parce que j'ai dit mais effectivement moi le petit coup de fatigue. Alors il y avait les histoires de déprime saisonnière. Bon là on est au printemps, on s'en est débarrassé, rassure-moi.
Ça arrive, c'est bon. Là, on a le bout du tunnel est là. Mais si on part un petit peu trop bas, ça va prendre du temps. Et donc, ça dépend d'où on part, en fait. Donc,
Parce que c'est vrai que ces histoires-là, on parle de déprime saisonnière, on dit on est plus ou moins sensible, mais comme tu disais, enfin moi j'ai fait un dessin au mois de novembre à peu près en disant on rentre dans le trou noir. C'est-à-dire que on passe la journée enfermée, alors sauf si on va marcher, mais on passe les journées enfermées quand il y a de la luminosité, et puis il fait nuit très tôt, on manque de beaucoup de luminosité. Et d'ailleurs on s'en rend compte en ce moment parce que là on est au mois de mars. L'autre jour, je me faisais la réflexion, j'ai dit, oh, mais c'est fou comme il fait tard, il fait jour tard maintenant par rapport à il y a quelques temps. C'est tellement agréable, on a l'impression qu'on retrouve de la forme, de l'énergie, juste par la présence de la luminosité.
Oui, c'est alors on est des êtres circadiens. Donc circadien veut dire qu'on vit et que notre horloge biologique et que notre organisme vit avec ce rythme jour-nuit. Il est connecté avec ce rythme jour-nuit, donc forcément avec le soleil et avec cette luminosité qui impacte beaucoup de choses, donc au niveau de notre cerveau, au niveau de la sécrétion de nos hormones, au niveau de notre sommeil, au niveau donc de ces neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui transmettent des informations et qui vont jouer aussi sur nos émotions, sur notre vitalité, sur la façon dont on se sent. Donc ces neurotransmetteurs sont très importants. En fait, c'est comme vous avez entre deux neurones, il y a des communications, donc soit des messages électriques, mais il y a aussi donc des messagers chimiques qui, dans la synapse, se transmettent et vont aller donner une information particulière. Et ils sont très importants. On a tous ces neurotransmetteurs-là, mais chez chaque personne, certains vont être plus dominants que d'autres. On va donner un trait de caractère ou alors une idée de quel type émotionnel ou quel type un petit peu de personne on peut être face à certaines situations. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Je pourrais en parler encore pendant des heures. Mais comme tu disais que un bon sommeil se prépare dès le matin, et je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que ce rythme circadien, il faut que le corps il le comprenne. Il faut bien qu'il comprenne que le jour, voilà, on doit bouger, on doit s'exposer à la lumière, on est actif, voilà, on a besoin vraiment de dopamine par exemple pour agir, etc. Et qu'arrivé en fin de journée, il va falloir se préparer au sommeil et l'obscurité va induire le sommeil si les bons neurotransmetteurs sont à bien sécrétés à ce moment-là, comme la sérotonine en fin de journée qui va calmer, qui va apporter un petit peu de sérénité, voilà, qui va un petit peu aussi déstresser et être aussi en même temps le précurseur de la mélatonine, qui est notre hormone qui va induire le sommeil. Donc c'est un vrai équilibre, encore une fois, entre tous ces neurotransmetteurs-là, une espèce de chrono physiologie de ces neurotransmetteurs. Donc au bon moment de la journée, si on fait un petit peu les bons gestes, on va avoir les bons neurotransmetteurs qui vont être nécessaires justement pour qu'on agisse, pour qu'on soit créatif, pour qu'on soit motivé, pour que on puisse après se calmer et bien évidemment favoriser un bon sommeil. Donc, et un bon sommeil, en fait, va forcément permettre au corps de se régénérer. On n'est pas fatigué le matin, au lendemain, au réveil, et ainsi de suite. C'est vraiment ce rythme circadien, il nous régit, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que marcher le matin, c'est un premier geste santé que je répète, marcher ou faire du sport ou sortir, hein, mais l'exposition à la lumière naturelle et tout ça, c'est hyper important et ça commence comme ça. Tout comme par exemple le petit déj protéiné qui vont permettre par exemple la sécrétion de dopamine, parce que comme je le disais, la dopamine, c'est notre starter et son pic, c'est le matin que ça se passe. Donc une fois qu'on a compris un petit peu tous ces neurotransmetteurs, ce que l'on peut faire dans son quotidien au bon moment de la journée, ben, ça aide énormément à cet équilibre-là.
Alors, justement, c'est intéressant sur cette histoire-là parce que c'est vrai que souvent, et puis alors en France, on a vraiment un gros problème de petit déjeuner, moi je considère, on aime les viennoiseries, on aime la confiture, on aime le sucre, le jus d'orange pour certains, enfin tous ces trucs-là. Et sur le plan des neurotransmetteurs, je ne sais pas s'ils sont tout à fait d'accord avec cette manière-là de démarrer la journée en fait.
Alors, non, sur le plan des neurotransmetteurs, effectivement, les neurotransmetteurs, il y a différentes sortes, types de neurotransmetteurs, mais une grande majorité sont des neurotransmetteurs, on appelle ça peptidiques ou synthétisés à partir de protéines, ces acides aminés qui sont contenus dans les protéines que l'on peut amener par l'alimentation. Et donc, le matin, par exemple, la dopamine, c'est notre starter, c'est notre motivateur, c'est un peu le coach qui va vous dire, allez, on y va, qui va vous donner de l'entrain, du dynamisme. Quand on n'a pas envie de se lever, par exemple, le matin, c'est que la dopamine, elle est un petit peu flébarde, pardon. Donc, elle est impliquée aussi dans le système de récompense du cerveau. Donc, on va aller faire quelque chose parce qu'on va aller chercher aussi cette récompense. Et donc, un manque de dopamine, ça démontre par exemple un manque d'intérêt, une fatigue, une baisse de motivation, même voire une baisse de morale. Le pic, il est en milieu de matinée. Donc, si au petit-déj, on n'a pas apporté des protéines. On va... Alors, je ne suis pas contre le sucre, on peut très bien prendre aussi un petit peu de sucre à la fin, mais il faut quand même qu'il y ait des protéines dans ce petit déj-là pour justement apporter de la tyrosine, qui est l'acide aminé précurseur de la dopamine. Et on va donc trouver ça dans soit les produits laitiers, soit les œufs, soit des poissons. J'avoue que la sardine le matin, c'est un peu compliqué, mais je pense que par exemple, une tranche de pain grillé avec un petit fromage à tartiner et du saumon fumé, ça peut passer. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu peut-être revoir, mais je dis toujours que les petits déjeuners à l'hôtel, c'est génial.
Ouais.
Parce que bizarrement, on mange salé sans problème quand on est à l'hôtel et pas à la maison. Alors, parce qu'on a le choix et c'est très facile de se servir. Donc, il faudrait un petit peu reproduire ça. Après, si on aime le sucré, c'est tout à fait possible d'avoir des protéines dans un petit déj sucré. Un porridge de flocons d'avoine, par exemple. Une omelette banane. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Un skyr granola. Donc, il ne faut pas rester cantonné à cette idée parce que là, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus que le. Petit déj protéiné et forcément salé. À partir du moment où il est protéiné, c'est très intéressant justement pour cet équilibre des neurotransmetteurs et donc cette dopamine qu'on cherche à avoir le matin.
Oui, et puis on va dire des œufs, par exemple. Manger 2 œufs le matin, c'est. Alors je dirais pas idéal, mais en tout cas, c'est pas mal.
C'est idéal. C'est moi je le dis, c'est même idéal. Les œufs, c'est presque un aliment quasiment parfait. Alors, on va retrouver donc des protéines dans les œufs, 7 à 8 grammes par œuf, ce qui est quand même très intéressant. 2 œufs, on amène déjà autour de 15. S'ils sont très gros, on peut, voilà. C'est donc ce qui est bien, parce que les protéines, encore une fois, ce n'est pas que le matin, c'est aussi toute la journée, parce que moi, je le vois beaucoup. Consultation et je vois aussi dans notre mode de vie actuel, il y a une réduction drastique de la portion protéique. Plus présente chez la femme, bien évidemment, pour différentes raisons, hein, mais simplement soit par conviction, soit par envie. Et ça a un impact sur notre santé. Ça commence déjà dans l'assiette, effectivement. Donc, avoir un apport suffisant, ne serait-ce que suffisant de protéines toute la journée, c'est hyper important. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais si je reviens aux œufs, les protéines, ça contient la choline. La choline, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi le précurseur de l'acétylcholine, qui est un autre neurotransmetteur. C'est notre neurotransmetteur qui va donner de la créativité, qui va faire travailler la mémoire. C'est vraiment le neurotransmetteur de la concentration. Donc, 2 œufs le matin, c'est parfait, par exemple, pour les étudiants, pour ceux qui ont besoin d'avoir une bonne performance intellectuelle. Et dans les œufs, on retrouve aussi parfois des oméga-3, on retrouve aussi toutes les vitamines. Sauf la C. Donc, c'est vraiment un aliment très complet. Et donc, démarrer avec 2 œufs le matin, c'est, moi, j'ai pas peur de le dire, c'est quasiment idéal.
Il y aurait quand même une manière de les préparer pour qu'ils soient idéalement idéaux.
Oui, alors on dit que normalement, le jaune ne doit pas être trop cuit. Alors, moi, je suis moins exigeante de ce côté-là. Si déjà vous mangez 2 œufs, que si vous aimez, que ce soit en omelette, voilà, que c'est vrai que les œufs à la coque, la qualité nutritive sera vraiment au-dessus, mais déjà, moi je suis partisane de faire ce que l'on peut, donc déjà si on arrive à manger 2 œufs, c'est bien.
D'accord, c'est noté. Ma fille, elle aime pas le blanc, elle aime que le jaune. Il vaut mieux le jaune, le blanc, il faut les deux. Parce que je sais pas comment la convaincre.
Alors. Oui. Donc dans le jaune, c'est là où on va retrouver les lipides, la choline et les lipides, la vitamine A, les vitamines E. Voilà. Donc c'est un petit peu le gras de l'œuf. Et c'est dans le blanc qu'on va retrouver les protéines. Donc est-ce qu'elle l'aime cuit ou est-ce que pas du tout?
Non, mais ma fille, elle aime l'œuf à la coque parce qu'elle aime le tremper dedans, le jaune et tout. Et bon, elle a 6 ans après, hein, mais c'est vrai qu'elle aime bien les œufs à la coque. Et c'est vrai que je lui dis, mais il est bon le blanc et tout. Et même, on a essayé plein de trucs, hein, parce que moi j'adore les œufs au plat, je les fais même à la vapeur douce, comme ça et tout. Et dans tous les cas, elle me regarde faire, elle me dit, mais pourquoi tu manges ça? Moi j'aime que le jaune et tout. Bon, j'essaie de lui trouver des arguments potentiels pour lui dire que le blanc aussi c'est bon, quoi. Voilà.
C'est là où il y a les protéines. Donc, c'est là où on va prendre du muscle où il y a de la force. Donc, peut-être
Que j'ai dit l'autre
lui
jour
dire
pour faire le sport, pour aller
ça.
faire le sport, je lui dis, il avait un sens de sport. Les neurotransmetteurs, parce qu'on n'a pas dit, il y en a combien en fait?
Alors, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Mais en fait, quand on parle de neurotransmetteurs dans l'équilibre nerveux au niveau des émotions, on parle de 4 grands neurotransmetteurs, mais il y en a plein d'autres. On ne va pas parler, par exemple, l'adrénaline, de la noradrénaline, le glutamate. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de messagers chimiques. Mais quand on parle de type de neurotransmetteurs, il y en a quatre. Donc, il y a la dopamine, qui est vraiment le coach motivateur, le starter pour bien démarrer la journée, pour donner de la motivation. Il y a l'acétylcholine, qui est vraiment notre neurotransmetteur de la mémoire, de la concentration, de la créativité. La sérotonine, alors elle, c'est la douceur, c'est vraiment en fin de journée qu'il y a son pic, et c'est aussi le précurseur de la mélatonine. Donc vraiment, elle est très importante dans tout ce qui est gestion du sommeil, pour la sérénité, pour calmer. Elle est très, très importante. Son précurseur, c'est la tryptophane. Donc la tryptophane, on va aussi le retrouver dans toutes les protéines, notamment les protéines animales, mais aussi les protéines végétales. Donc c'est important. Il y en a aussi dans la banane, par exemple. Donc une banane au goûter, par exemple, c'est assez aussi, c'est le bon moment, c'est assez propice aussi à ce moment-là. Et le dernier neurotransmetteur type, c'est plutôt le GABA. Le GABA, c'est le frein, c'est vraiment ou acide gamma-aminobutyrique. Alors j'ai toujours un problème avec les acronymes, mais oui, c'est ça. Et lui, il va stabiliser. Il va stabiliser à la fois notre physique, notre mental. Donc, il va aider à la détente. Donc, il est aussi très important. Son précurseur, c'est la glutamine, un autre acide aminé. Encore un. Donc, vraiment, quand on parle de ces neurotransmetteurs, on ne peut pas trop les dissocier des protéines. Donc, c'est très, très important d'avoir vraiment un bon apport protéique et tout au long de la journée sur les trois repas. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et ces neurotransmetteurs ont besoin d'autres micronutriments pour être synthétisés. Donc ça aussi, c'est important à se dire, ils peuvent pas en fait passer d'un neurone à l'autre tout seul. Il va falloir par exemple de la B6 pour une bonne action du GABA. On va avoir besoin de fer, on va avoir besoin de calcium, on va avoir besoin de zinc pour que les échanges ioniques et tout ça se passe bien au niveau de la cellule. Il faut aussi que les oméga-3 soient suffisants pour que les membranes soient souples et qu'il y ait aussi beaucoup d'échanges. Il faut des antioxydants, il faut beaucoup, beaucoup de choses pour que tout ça fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la micronutrition, voilà, c'est vraiment un ensemble. Mais ces neurotransmetteurs-là, c'est notre équilibre. C'est notre équilibre émotionnel, c'est notre équilibre nerveux. Et il y a beaucoup de choses qui impactent justement, donc par exemple, le stress, mal dormir, etc. Donc, c'est ça qu'il faut un petit peu comprendre, que faire les bons gestes au bon moment de la journée, ça a aussi son importance.
Ouais, et c'est là aussi où ça paraît compliqué, alors que pourtant, ça, naturellement, on devrait savoir où chercher, quoi manger, etc. Et en fait, alors déjà, ça paraît compliqué quand on le raconte comme ça. Et puis, quand on regarde notre mode de vie, le stress, hein, le sommeil qui est concurrencé en permanence par plein d'autres choses et qui est un petit peu relégué à je sais pas même plus quoi dans les oubliettes parfois, parce qu'on entend le Premier ministre français qui se glorifie de dormir que 4 heures par nuit, hein, alors que là on a un souci. Là franchement, on a le message santé d'un ministre qui sort ça, quand même, c'est quand même un peu problématique.
C'est problématique. Alors, l'individualité, c'est quelque chose aussi qui est très important à prendre en compte. Chaque personne est complètement différente. C'est vrai que certains auront peut-être besoin de beaucoup moins de sommeil. 5 à 6 heures, c'est les petits dormeurs peuvent suffire pour avoir un sommeil récupérateur. C'est plus la qualité du sommeil, effectivement, que la quantité, mais le sommeil reste par rapport au mouvement, même à égalité, parce qu'on parlait du mouvement qui est très très important, mais le sommeil reste un pilier de vitalité qui est fondamental et qui est très complètement négligé dans notre mode de vie parce que voilà, la journée, c'est compliqué, parce qu'on a un milliard de choses à faire, parce qu'il y a l'avènement des écrans, des réseaux sociaux, et que le soir, une fois que les enfants sont couchés, à 21h, 21h30, on a ce temps-là qui est juste pour nous, et c'est le seul peut-être temps de la journée, et qu'on va un petit peu, qu'on va en profiter, mais qu'on va sûrement un petit peu dépasser cette locomotive du sommeil qu'on loupe. Et ça a un impact aussi sur la qualité de notre sommeil, puisque c'est vraiment la première partie de nuit où notre sommeil va être de qualité si on s'endort en général avant minuit.
Ouais.
C'est des notions quand même très très importantes. Donc il y en a beaucoup qui disent, mais moi je m'endors vers 1 heure ou 2, et puis voilà, je me lève vers 9 heures, donc j'ai mes 8 heures de sommeil. Mais il n'y a pas cette première partie de nuit où le sommeil lent et profond est beaucoup plus important qu'en deuxième partie de nuit où le sommeil paradoxal prend un petit peu plus le dessus. Donc le message du sommeil est notamment chez les jeunes. Et pour moi, il doit être très très fort. Il y a beaucoup de choses en fait en santé, voilà, qu'on minimise leur impact, mais le sommeil, ça devrait être facile, ça devrait être une priorité, et ça ne l'est pas. Et pour différentes raisons, hein, je blâme personne parce que je suis exactement dans le même panier que tout le monde, mais voilà, scroller jusqu'à 1 heure du matin, regarder sa série et s'endormir devant la télé parce qu'on voulait absolument regarder la suite, ça, c'est des effets qui peuvent effectivement nuire à notre sommeil et donc à notre vitalité. Donc, je suis d'accord que s'il y a des petites choses et des gestes faciles, gratuits, qu'on pourrait mettre en place et donc prioriser le sommeil.
Et est-ce que sur ce sommeil, pour le favoriser, il y aurait des choses sur... parce qu'on parlait de l'exposition à la lumière, parce que ça c'est une chose, mais est-ce qu'on aurait des choses par exemple sur, je sais pas, l'alimentation, sur le moment de manger, quoi manger, enfin, il y aurait des choses qui favoriseraient en fait.
Oui, encore une fois, il y a tout un équilibre de neurotransmetteurs à avoir. Quand on parle de sommeil, il faut avoir suffisamment de mélatonine. D'ailleurs, cette mélatonine, avec l'âge, elle est beaucoup moins sécrétée. Et c'est pour ça qu'en avançant dans l'âge, les personnes âgées dorment beaucoup moins et ont parfois des difficultés. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Donc, la mélatonine, elle est sécrétée, encore une fois, à partir de la sérotonine, qui elle-même est sécrétée à partir d'un acide aminé, qui est le tryptophane. Donc, avoir un apport suffisant en protéines le soir, c'est bien aussi, mais il y a, comment dire, il y a une possibilité de détournement du tryptophane s'il y a inflammation. Et donc, si par exemple, c'est un peu compliqué parce qu'après, c'est de la biochimie, mais si on n'apporte pas des glucides, par exemple, le soir,
Ouais.
le tryptophane va avoir plus tendance à être transformé en par la voie des kynurénines plutôt qu'en sérotonine, en 5-HTP et en sérotonine. Donc, quand je vois beaucoup de choses, par exemple, par rapport au régime cétogène et tout, pas avoir de glucides à ce moment-là, c'est un peu risqué de pas avoir assez de sérotonine et de mélatonine aussi. Ça dépend du contexte, ça dépend de votre physiologie, ça dépend du terrain. Mais pour moi, c'est important de ne pas supprimer aucune catégorie d'aliments. Donc normalement, dans une assiette, pour qu'elle soit équilibrée, c'est toujours protéines, glucides, alors plutôt effectivement tout ce qui est glucides lents, céréales, ça peut être des pommes de terre, ça peut être de la patate douce. Là, on va amener par exemple des amidons, ça va être intéressant aussi pour le microbiote. Donc les glucides, les protéines, la portion végétale, bien évidemment, un petit peu de gras, de bon gras, les oméga-3 principalement. Et là, vous avez une assiette. La quantité est importante aussi. Si on surcharge, effectivement, la digestion est très énergivore, donc va forcément ralentir aussi l'endormissement et gêner l'endormissement. Donc, encore une fois, une question d'équilibre. Il n'y a pas vraiment de choses à supprimer. Tant que c'est, on va dire, brut, varié, moins transformé et qu'il y a cet équilibre entre tous les macronutriments et un bon apport végétal, c'est là où ça sera intéressant. Mais le soir, on voit souvent la soupe est au lit, et pour moi, ça, c'est pas bon.
Oui, c'est vrai, et c'est même un truc que j'ai entendu tellement souvent. Les personnes, et puis en vieillissant, ceux qui ont un peu de poids à perdre, ils disent ouais, moi je prends un yaourt, je vais me coucher. Et enfin, voilà, ça paraît être pour eux un truc, une solution, mais un peu comme est la solution du jeûne intermittent. Il y a des gens qui disent moi je veux perdre du poids, je fais du jeûne intermittent. Et je dis moi, quand je fais un jeûne intermittent, j'ai plutôt tendance à gouler tout ce qui passe derrière au moment de la reprise, et ça me crée plutôt une envie de manger. Alors j'imagine que là encore, il y a des histoires de fonctionnement, de communication interne dans notre corps, parce que c'est pas possible, comment dire, de, tu disais, on peut pas supprimer comme ça des aliments, notre corps en a besoin. J'ai fait des épisodes sur le cétogène, il y en a d'autres qui vont arriver sur le cétogène, sur la réduction des glucides. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions, ces variations. De même que j'ai fait des épisodes sur les végétariens, sur le véganisme et tout. Là aussi, il y a un truc, un équilibre et tout, il y a des carences, il y a tout un tas de questions qui se posent, mais chez tout le monde en plus, il y a des carences, il y a tout ça, on est tous concernés par ça. C'est, comment dire, quand on regarde un petit peu le tableau comme ça, en fait, moi je me dis, il nous faut des règles simples quand même à mettre en œuvre, en se disant, bon, si je mange ça le soir, une assiette pas trop chargée comme tu l'as dit, équilibrée dans toutes les familles d'aliments, normalement, on est quand même plus tranquille.
C'est exactement ça, tu as dit un mot que j'utilise souvent et auquel je me reporte systématiquement, c'est la simplicité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, alors on a envie de presque tout tester. Je ne dis pas que, par exemple, le cétogène n'est pas bon. Quand on a, par exemple, une résistance à l'insuline, ça peut être très intéressant sur certaines périodes. Il y a des choses, même un jeûne intermittent, mais le système digestif au repos peut être aussi très intéressant sur certains terrains, mais peut être aussi très néfaste sur d'autres terrains, quand on est hyper fatigué, enfin, quand on est en déséquilibre hormonal. Donc, c'est une individualité qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas prendre pour argent comptant. Ce que vous dit la personne en face, même si vous avez confiance et qu'elle peut dire des choses tout à fait sensées, même vérifiées scientifiquement, ce n'est pas forcément adaptable à votre cas. C'est un petit peu ça l'erreur que je vois régulièrement, c'est de dire ça va marcher sur moi. Eh ben non, c'est l'inter-individualité, c'est le propre de l'être humain. Donc ça aussi, et pour tellement de raisons. Et quand on revient à la simplicité, au final, en général, on part d'une bonne base et après on fait de l'observation, on voit ce qui nous convient. Donc sa propre expérience, sa propre observation, ça c'est aussi c'est un autre point hyper important que j'aborde régulièrement, c'est qu'on ne s'observe pas assez et on ne regarde pas assez l'impact de soit de son assiette, soit de ce qu'on a fait plus tard. Par exemple, si vous faites du sport à 22 h et que ça vous empêche de dormir, il faut absolument se dire, bah oui, je vais peut-être décaler ma séance de sport et pas la faire à 21 h, 22 h après le boulot, parce qu'il y en a qui le font. Donc l'inter-individualité, elle est hyper importante et aussi dans l'alimentation. C'est pour ça que la simplicité nous permet au départ d'avoir une excellente base, de revenir à des fondamentaux tout simples, avoir dans son assiette tout ce qu'il faut. Je le répète souvent, mais une assiette riz, haricots verts, poulet, elle est parfaite. Voilà, filet d'huile d'olive, c'est vraiment, c'est pas très compliqué à faire, je pense. C'est voilà, plutôt. Et pour toute la famille, elle peut conduire. Après, il y a des. Voilà, si quand on est intolérant à différentes choses, on s'adapte. Mais la simplicité vous permet d'avoir une bonne base, d'amener les bons macronutriments. Les macronutriments, c'est tout ce qui est glucides, protides et lipides. Et quand on favorise aussi une alimentation brute, produits non transformés avec des végétaux, on va amener là des micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, et la combinaison des deux fait que cette assiette est nécessaire, enfin est bénéfique à notre vitalité, au fonctionnement de notre organisme. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que on dit beaucoup l'alimentation c'est notre première médecine. C'est vrai, ce que vous mangez, et on parle justement pas assez des effets néfastes, enfin de c'est pas enfin de tout ce qui est toxique et qui surcharge l'organisme. Donc bien manger c'est une chose, mais l'alcool, le tabac, voilà, les produits ultra transformés, tout ce qui va surcharger l'organisme, ben ça va faire le contraire. Donc ça aussi, c'est un autre souci. La simplicité, c'est revenir à une bonne base, limiter les toxiques plutôt que de parler de détox. Avant de parler de détox, il faut limiter en fait l'apport de toxiques. Et à ce moment-là, je pense que c'est des choses toutes simples qui permettent de garder, d'être en bonne santé et garder la vitalité.
Alors là, par contre, limiter les toxiques, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il y a quoi, il y a 1 heure, juste avant d'enregistrer. On parlait du poisson, les poissons, et notamment parce que on a besoin de poissons. Il y a des gens qui ne mangent pas du tout de poissons. Alors par goût, ça c'est une chose. Par oubli, peut-être par certaines personnes aussi qui c'est pas leur premier réflexe. Il y a aussi par crainte. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup que les poissons, pourquoi la relation avec toxique, c'est parce qu'on parle des poissons qui sont chargés, métaux lourds, etc. J'ai vu par choix des personnes qui disent, bah moi j'aime pas trop le poisson, et en plus c'est chargé en métaux lourds et tout, donc je vais pas en manger, ou alors on va manger que des petits poissons et tout. Et pourtant on en a besoin. C'est-à-dire que dans notre alimentation, ce qu'ils contiennent, on en a besoin d'aller les chercher. Alors comment on fait finalement le choix quand on entend tous ces messages-là, quand on voit tout ça? c'est quoi la bonne solution? Alors, la bonne solution, je ne sais pas s'il y a une bonne solution, mais en tout cas, une stratégie à tester.
Oui, c'est ça. Je pense pas détenir de solution parfaite, encore une fois. Et je reviens toujours à l'équilibre. Je veux dire, manger un saumon une fois tous les 15 jours, effectivement, on peut avoir un apport de certains métaux lourds, mais je pense qu'à cette fréquence-là, le corps est capable de le gérer parce qu'on amène en fait une quantité assez petite et que le temps, l'espace, enfin, l'intervalle de temps permet au corps de gérer et puis d'éliminer facilement aussi ces toxiques-là. Donc, et le bénéfice en fait du saumon va être aussi très intéressant, oméga 3, mais les oméga 3 d'origine marine, EPA et DHA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les oméga 3 d'origine végétale et ces oméga 3 d'origine marine. Je ferai un petit aparté dessus après si j'ai un peu le temps. Mais donc, il y a un bénéfice. C'est toujours cette balance bénéfice-risque qui va nous dire, ben, est-ce que je peux finalement en manger? Donc, moi, je pense que le bénéfice est un petit peu plus élevé. Et à cette fréquence-là, c'est tout à fait correct de pouvoir amener ses oméga, ses protéines. C'est facile à digérer en plus comme protéines, le poisson, un petit peu plus facile. Donc, un meilleur confort digestif. Donc, par exemple, si on veut avoir des bonnes protéines le soir, préfère privilégier le poisson. Et après, on peut combiner avec d'autres produits de la mer qui sont un petit peu moins contaminés, les petits poissons gras par exemple, les crustacés aussi, tout ça c'est un petit peu en bout de chaîne, donc c'est plus petit, donc ça contient quand même moins de métaux lourds. Donc les sardines, les maquereaux, alors je sais que tout le monde n'aime pas ça, et je trouve ça, ça c'est problématique parce que ça crée une carence en oméga 3, EPA, DHA. Et ça, c'est vraiment problématique parce que on parle beaucoup de vitamine D, on parle beaucoup de magnésium comme des micronutriments très essentiels, mais alors les oméga 3, EPA, DHA, c'est même fondamental, c'est la base, ça constitue toutes nos membranes cellulaires. Toutes nos cellules ont besoin d'oméga 3 pour que ces membranes soient souples. Et quand c'est souple, ça communique, c'est-à-dire ça laisse passer toutes, voilà, les molécules, et donc ça permet cette communication cellulaire qui est vitale à notre organisme. Et quand ces membranes ne sont pas assez pourvues en gras, donc en oméga 3, eh bien ça se rigidifie. Et en plus, la DHA, elle est principalement au niveau de notre rétine et au niveau de notre cerveau aussi. Donc tout ce qui est maladie neurodégénérative, c'est un petit peu délétère de pas avoir suffisamment d'oméga 3, donc pour le fonctionnement cérébral, pour notre cognition, c'est hyper important d'avoir suffisamment. Donc, je préfère penser à ce bénéfice-là et me dire que quand je mange du poisson, je vais avoir ces bénéfices-là. Je choisis effectivement aussi les poissons. La qualité de l'aliment fait beaucoup de choses aussi. Hein. On peut très bien aussi choisir. Alors, je sais que ça a un coût, clairement. C'est un peu aussi ça le bas blesse quand on veut bien manger, on peut dire tout ce qu'on veut, ça coûte plus cher. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça coûte quand même plus cher de bien manger. Donc, faire un équilibre entre les sardines et maquereaux, ça, c'est quand même plus abordable. Et même en conserve, on a de la qualité. On peut trouver des sardines cuites à la vapeur, par exemple, en conserve. Voilà, sans pas forcément de la friture, etc. Donc, je pense qu'on peut tout à fait combiner et avoir quand même... Et surtout, penser à donner le goût aux enfants très tôt de manger du poisson. Je pense que ça vient aussi de ça, de ces habitudes-là. Et... c'est quelque chose que je préconise quand même, 2 à 3 fois par semaine du poisson, c'est mieux.
Ouais, et un jour j'avais fait la réflexion à quelqu'un, j'ai toujours entendu mes parents, grands-parents parler d'huile de foie de morue, des trucs comme ça là. Et c'est un truc qu'on ne mange plus, enfin, on en trouve dans le commerce et tout, mais on n'en prend plus du tout, alors que pourtant ça avait probablement un très gros intérêt.
Très gros intérêt, puisque l'huile de foie de morue va contenir encore une fois ces fameux oméga 3 EPA DHA d'origine marine, puisque les oméga 3 d'origine végétale qu'on va retrouver dans l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de colza, c'est de l'acide alpha-linolénique, donc l'ALA, qui est très importante aussi pour notre corps. Et normalement, cet acide gras essentiel est censé se transformer dans notre corps en EPA et en DHA. Mais le taux de conversion est infime. On est entre 1 et 5%, ce qui fait que si vous n'en apportez pas par l'alimentation, vous n'avez pas assez de BA et de DHA. Et je vous rappelle que cette DHA au niveau de votre cerveau, elle est cruciale. Donc l'huile de foie de morue, elle contient déjà ça. Elle contient aussi de la vitamine D, donc la fameuse vitamine D dont on parlait souvent. Donc c'est pour ça que on ne supplémente C'était pas en vitamine D à l'époque, mais on prenait l'huile de foie de morue pour ça. Elle est aussi riche en vitamine A, vitamine E. Et donc, juste attention maintenant à la vitamine A. Alors, j'ai vu qu'on revient quand même pas mal à cette huile de foie de morue et elle existe sous différentes formes et même sous forme en cuisine. Au niveau culinaire, vous avez des huiles parfumées, enfin aromatisées au citron qu'on peut par exemple donner aux enfants. Il y a des marques très qualitatives. Et il faut juste que l'huile de foie de morue, pareil, c'est un gros poisson la morue. Et ça peut être contaminé. Donc, faire attention à la qualité de l'huile de foie de morue que l'on préconise, mais ça peut être une solution. Et il faut faire attention à la teneur en vitamine A.
Bien.
Parce que la vitamine A, oui, à haute dose, c'est plus compliqué à gérer. Donc, ça met une bonne qualité de foie de morue, c'est possible, mais attention à la teneur en vitamine A.
Bref, on va remettre de l'huile de foie de morue dans notre alimentation alors. Non mais c'est vrai, et il y a des trucs comme ça hein, qui paraissaient des remèdes, ce qu'on appelait les remèdes de grand-mère. Tout à l'heure on parlait du sommeil, hein, c'est comme on entendait toujours cette histoire de le sommeil avant minuit compte double, etc. Enfin voilà. Peut-être que scientifiquement, on ne savait pas trop d'où ça venait, mais en fait, on se rend compte que quand même, les sciences vérifient quand même pas mal de choses. C'est comme moi, j'étais toujours été fasciné par les plats traditionnels dans les différents pays, avec les mélanges de céréales, de légumineuses, qui sont finalement extrêmement bien équilibrés sur les apports, notamment en protéines, les différents types d'acides aminés. C'est ça aussi qu'on peut dire, c'est que finalement, si on revient un peu sur certains aliments, sur des choses qui paraissent être des plats ancestraux, simples, etc. Mais on revient sur du truc simple. Finalement, ils sont pleins de bénéfices. Je parlais aussi souvent des plats. Alors moi, j'aime pas ça, les plats type viande bouillie. Enfin, je sais même plus les noms, mais
Ça, oui.
ouais. Ou finalement, ce serait avec du bouillon d'os. Mais on pourrait parler aussi des soupes de poisson, des trucs comme ça, qui paraissent très simples et qui pourtant ont beaucoup de qualité.
Oui, parce que il faut penser que, encore une fois, on mange 3 fois par jour. L'alimentation, c'est votre premier pourvoyeur et de macro et de micronutriments. Et il faut commencer par là. Et en fait, avant cette industrialisation, il y avait quand même moins de produits transformés à disposition. C'était quand même moins accessible, c'était quand même beaucoup plus agricole. Donc, il n'y avait pas Uber Eats. Enfin, voilà. J'ai donné le nom d'une marque qu'il fallait peut-être
C'est pas
pas,
grave, on en
mais
citera d'autres s'il faut.
voilà, il y en a d'autres, Deliveroo, enfin, ce que vous voulez. Mais l'alimentation, elle était vraiment plutôt brute et on partait de produits frais pour faire nos assiettes et les combinaisons, donc même effectivement dans différentes cultures, la combinaison céréales-légumineuses, par exemple pour les personnes plutôt végétariennes ou même véganes, permet d'avoir un apport d'acides aminés mais complet. Parce que le spectre d'acides aminés essentiels, il y en a 8, et c'est-à-dire que le corps est incapable de les fabriquer, et c'est un apport qui doit être forcément exogène et par l'alimentation. Si par exemple vous mangez que des légumineuses, il va vous manquer un acide aminé comme la phénylalanine, et du coup certaines protéines ne pourront pas être synthétisées parce qu'il va manquer un acide aminé. Je rappelle, les protéines, c'est un enchaînement de différents acides aminés, et chaque protéine a sa propre séquence, et s'il manque un acide aminé, justement, il n'y aura pas cette protéine-là. Donc le fait du coup de combiner par exemple céréales et légumineuses, déjà on va augmenter la portion protéique à équivalence à peu près avec une portion protéique animale, et on va pouvoir avoir ce spectre d'acides aminés essentiels complet. Donc on appelle ça des protéines complètes. Il y a différents gestes qui sont repris, le bouillon d'os on en parlait, mais même voilà, tout ce que soupe de poisson, on va utiliser par exemple beaucoup les arêtes, on va les passer, et ça va être riche par exemple en collagène, et donc ce fameux collagène qui est soi-disant une tendance mais qui est quand même la protéine la plus abondante de notre organisme. Rien que ça, qui constitue tous nos tissus conjonctifs, qui permet toutes nos jonctions, qui permet tout ce qui est tissu de soutien, donc notre peau, nos cheveux. Encore une fois, il y avait des gestes qui naturellement permettaient d'avoir un bon apport et en protéines et en micronutriments. Tout ce qui va être antioxydant, tout ce qui va être aussi fruits et légumes, en fait, ben, tout ce qui est frais va amener justement ces antioxydants qui sont hyper importants au niveau de notre stress oxydatif. Parce que j'ai pas parlé de l'inflammation, etc., mais notre mode de vie génère beaucoup plus de stress oxydatif qu'avant. Donc ça, c'est important aussi d'avoir des antioxydants et des actifs anti-inflammatoires. Le gingembre va être anti-inflammatoire. Dans les cultures indiennes, et, enfin, tout ce qui est curcuma, gingembre, c'est intégré complètement dans l'alimentation. Ils ont de vraies propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, les salades de pommes de terre aussi. On en fait presque plus maintenant. Et avant, c'était vraiment un plat du dimanche très familial. Et dans les pommes de terre, une salade de pommes de terre, en fait, même comme une salade de riz ou une salade de pâtes, quand les amidons, enfin quand les glucides lents sont refroidis, ils vont fabriquer des amidons résistants. Et ces amidons résistants, c'est une excellente nourriture pour notre microbiote. On appelle ça des prébiotiques. Et donc ça, c'est énormément à favoriser, justement, pour favoriser cet équilibre du microbiote et bien nourrir ces bactéries qui sont essentielles. Donc il y a beaucoup de choses, ça impacte beaucoup de choses. Mais encore une fois, l'alimentation, qu'elle vous soit adaptée, qu'elle soit simple, qu'elle amène vraiment tous ces éléments-là à chaque fois, je le dis. Et il y a aussi... Il y a une autre source d'angoisse que je vois beaucoup, c'est le fait de se dire que je dois manger comme ça à chaque fois et que je me stresse à préparer des choses comme ça à chaque fois. Alors ça aussi, ça amène en fait à une espèce de stress supplémentaire et ça, c'est pas bon pour l'organisme. Donc il faut faire simple, revenir un petit peu à ce qu'on a l'habitude, à ce qu'on aime manger. C'est pas grave si vous mangez deux fois par semaine le même plat. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, je le répète souvent, on fait comme on peut déjà, parce que on rentre du travail et qu'on a quatre bouches à nourrir et qu'on n'a pas le temps, c'est vrai qu'on se dit, la pizza à commander, c'est facile. Mais c'est pas parce que vous le faites une fois. C'est un équilibre sur la semaine, par exemple, qu'il faut voir. C'est pas. Et cette culpabilité-là, moi, je la vois beaucoup aussi. Et ça, c'est un autre problème, mais ça génère aussi un autre stress. Donc quand on revient à la simplicité, on évite aussi cette culpabilité-là.
Et alors, tu as parlé d'un truc, c'est la fin de journée, on revient du boulot, les enfants, etc. Là. Moi, il y a ce que j'appelle le tunnel de. Un peu le tunnel de la mort, là. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais c'est, on va dire, 4h30, l'heure du goûter, jusqu'à
Ouais.
20h, heure des couchers des enfants. Il suffit, et moi, je vais le dire très franchement, je vais en témoigner, parce que comme ça va être clair. Il suffit que j'ouvre le placard et que je vois un pot de beurre de cacahuète dans le placard. Pour que j'en prenne une cuillère systématiquement et peut-être même à chaque fois que j'ouvre le placard. Ça s'explique d'une manière, ça ou pas? Enfin, probablement oui.
Oui, ça peut s'expliquer d'une manière, cette pulsion, on appelle la pulsion sucrée, ou simplement cette envie de grignotage, c'est un petit peu pour compenser un petit peu le stress aussi accumulé et pour le stress à venir du fameux tunnel du soir aussi. Mais c'est quand il y a une petite baisse de sérotonine aussi. Normalement, la sérotonine, elle commence à prendre le relais justement des autres neurotransmetteurs vers 16-17 heures. Quand elle n'est pas là, eh bien, justement, cette pulsion sucrée, elle peut venir. Si on n'a, par exemple, pas bien mangé aussi à midi, voilà, cet effet, si c'est pas assez, il n'y a pas assez de protéines ou pas suffisamment de glucides, il y a cet effet rassasiant qui manque, donc on a aussi cette sensation de faim. Et cette envie sucrée, eh bien, elle vient aussi de ce petit déséquilibre de ce neurotransmetteur-là. Normalement, on a besoin de sérotonine à 17 h.
D'accord.
L'hormone de la sérénité.
Oui, sérénité. C'est pas facile la sérénité à ces heures-là, hein, quand il y a trop de trucs. C'est vrai qu'il y a cette phase un peu de passage d'un monde à l'autre. Hein, et puis on voit les parents qui courent dans tous les sens pour récupérer les enfants, on essaie de tout finir. On se dit, il faut arriver à manger bien. Hein, on parlait tout à l'heure du stress de la cuisine. Qu'est-ce qu'on le connaît, ce stress? Mais qu'est-ce que je vais faire ce soir? J'ai rien à préparer. Je peux pas encore faire ce truc-là, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, hein, dedans, qui jouent. Et c'est vrai, quand on parle de tout ça, on parle quand même beaucoup de stress. Et de stress qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et qui est franchement très fort. Et moi, je dis aussi, là, je peux être coupable parce que je sais à quel point je sens en ce moment les périodes de stress, etc. À quel point ça puise mais toute l'énergie, quoi. C'est-à-dire que mais tout le corps est impacté par ce stress, quoi.
Alors, mode de vie moderne, voilà, à 200 à l'heure, effectivement, rentrer du boulot, les enfants, le repas, tout, préparer le lendemain, les devoirs à faire, c'est une vraie source de stress. Alors, si notre corps a les ressources nécessaires à ce moment-là pour le gérer, ça passe beaucoup mieux. En général, par exemple, de retour de vacances, on le vit beaucoup mieux. Quand ça commence à durer, on le vit beaucoup moins bien et voilà, on a beaucoup plus tendance à s'énerver, à être irritable, etc. Mais tout ça s'explique encore par ces fameuses neurotransmetteurs, ces fameuses hormones, donc ce cortisol qu'on hypersécrète aussi en cas de stress, qui est normal. Et donc, il y a deux choses. La gestion du stress, qui est un autre pilier de la naturopathie, qui est hyper important, donc prendre le temps pour soi, facile à dire, je sais, mais par exemple intégrer de la respiration, tout ça impacte sur notre système nerveux. La cohérence cardiaque, ça a l'air de rien, ça coûte surtout 0 euro, mais ça peut vraiment réguler le système nerveux et vous aider. Je ne dis pas que ça résout toute la situation à un moment donné, mais vraiment, on remobilise certaines ressources. Qui est important, donc, c'est cette gestion du stress, différentes méthodes de gestion du stress en fonction de chacun, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes ressources à ce moment-là aussi pour bien gérer ce stress-là. Donc, par exemple, si vous manquez déjà de magnésium, il y a déjà un gros épuisement du magnésium en cas de stress, mais si vous en manquez, ça va être vraiment un cercle vicieux de perte en magnésium. Et donc le cortisone, il va continuer d'être très très haut et il va épuiser d'autres minéraux, le calcium. Voilà, peut y avoir aussi une acidification, tout un enchaînement en fait de réactions qui va faire que ce stress va perdurer et qu'on va être plus capable de le gérer. Et un stress qui perdure, c'est là où c'est néfaste. Parce que le stress, c'est normal, le stress, il mobilise notre corps et il nous met en tension pour qu'on réagisse bien et qu'on se dise, bon ben là, tout le sang va aller et au cerveau et aux muscles pour agir, et du coup, il va délaisser les autres organes. Par exemple, on digère beaucoup moins bien quand on est stressé, parce que justement, le sang ne va pas au niveau du système digestif. Donc, mais ce stress, si dur, il y a un impact physiologique énorme au niveau de notre organisme. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas les ressources nécessaires, eh ben ce stress va durer et on parle beaucoup de burn-out et peut aller jusque burn-out. Il faut éviter d'y aller parce que c'est très difficile de remonter la pente quand on est à un niveau de burn-out. Et donc tout ce qui a été épuisé, consommé avant, il faut vraiment se rendre compte que, par exemple, quand on commence à avoir des migraines, quand on commence vraiment à pas bien dormir, quand on commence à avoir des troubles digestifs, quand on palpite pour une petite situation, quand vous envoyez valdinguer l'assiette au moindre pépin, c'est que là, votre corps, il vous dit, ben là, j'arrive plus à gérer. Il faut absolument se prémunir et se dire qu'est-ce que je peux faire justement face à ce stress-là. Il y a cet équilibre des neurotransmetteurs. Il ne faut pas aller jusqu'à l'inflammation. Ou est-ce que parce qu'il y a déjà inflammation aussi, il y a d'autres ressources qui sont mobilisées et du coup, on n'arrive pas à gérer ce stress? C'est tout un ensemble, encore une fois, de l'organisme. L'organisme, c'est une machine qui fonctionne avec des vases communicants. Donc, si vos surrénales sont hyper sollicitées tout le temps parce que y a besoin de sécréter de cortisol, eh ben votre thyroïde, par exemple, elle va peiner derrière. Donc, après, ça a un impact sur votre métabolisme, ça a un impact sur votre transit. Donc, ça a un impact après sur les hormones, mâles, sur les hormones femelles. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui communique et qui, au final, on arrive à ces différents troubles-là. Et pour moi, c'est un petit peu le mal moderne où on se dit, bah, ok, je suis stressée, je vais dormir ou je vais aller marcher un peu, ça va suffire. Mais si ce stress, il dure trop longtemps, on ne se rend pas compte, ça, physiologiquement, on crée de l'inflammation, du stress oxydatif et ça déséquilibre beaucoup de systèmes. Donc c'est très, très important de ne pas laisser ce stress s'installer.
Oui, puis en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de l'impact en chaîne. Enfin, après, on pourrait parler par exemple de la graisse, la prise de certaines graisses, de développement de poids, qui elles-mêmes vont elles-mêmes participer au cortisol, à leur tour et tout. Donc, on a des espèces d'enchaînement,
C'est
machine qui
ça.
s'emballe, quoi.
Ben, c'est un peu, voilà, beaucoup de biochimie, mais un cortisol élevé, ben, ça va faire beaucoup de symptômes. Hein. On palpite, on ne dort pas bien, on peut être aussi sujet à des infections. Mais après, quand le cortisol baisse parce que les surrénales n'arrivent plus à sécréter, là, c'est un petit peu le bout du bout et il faut vraiment éviter d'en arriver là. On peut arriver à une insulinorésistance parce que le cortisol, lui, il utilise aussi le glucose. Donc, ça joue sur ce métabolisme glucidique. Insulinorésistance dit après problème métabolique, dit inflammation, problème pathologie cardiovasculaire. Après, sans parler de tout ce qui est santé mentale, de tout ce qui est donc des équilibres de ces neurotransmetteurs-là, anxiété, irritabilité, et on peut même aller jusqu'à la dépression. Donc vraiment, ben, c'est un générateur de pathologie, quoi.
Ouais. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'intéressait et sur lequel on n'a pas revenu. Tu disais par rapport à ces quatre grands neurotransmetteurs dont tu parlais tout à l'heure, il y avait un peu des caractères qui étaient associés. Hier, alors
Oui.
quand j'ai revu la vidéo là, je trouvais que c'était super intéressant sur l'histoire entre ceux qui sont organisés, les créatifs, etc. Tu peux nous en dire quelques mots parce que je pense que les gens en fait, ils vont se reconnaître et je pense que ça va faire un peu sourire certaines personnes quand même de se rendre compte à quel point c'est on est lié à tout ça en fait, parce que ça va loin quand même.
Exactement. Alors, quand tu parlais de ces quatre grands types de neurotransmetteurs, ça dégage en fait un certain type de personnalité. On a une dominance en tel ou tel, même si on a un peu toujours les quatre, on peut avoir une dominance. La dominance, par exemple, dopamine, c'est le gars qui fonce. Enfin, le gars ou
La fille.
c'est la personne qui ne se pose jamais de questions et qui fonce tête baissée dans quoi qu'il arrive, alors qui est toujours motivé pour faire toutes les activités, un peu un hyperactif, mais alors lui, il a besoin de résultats. Il faut vraiment que le résultat vienne, c'est un petit peu sa récompense, c'est un petit peu cette recherche de performance. Même à l'extrême. Donc ça, le dopamine, on voit bien qui c'est, on a toujours un qui à côté qui est là, ouais, on y va, toi, ça, c'est le dopamine. L'acétylcholine, il est beaucoup plus rêveur, beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif, mais à la fois, il peut être très organisé aussi. Donc, c'est un petit peu le sensible, on va dire, de la bande. La sérotonine, c'est un petit peu la zénitude, l'incarnation de la zénitude, normalement. C'est celui qui va tempérer tout le monde. C'est l'inverse, plutôt, enfin, le pendant de la dopamine. Donc, c'est le contrôle. Alors, en revanche, le besoin de contrôle de la sérotonine, il est très, très fort. Hein. Donc, il n'y a pas toujours le lâcher-prise nécessaire. Donc, voilà, il y a aussi cet effet-là. Et le GABA, ben le GABA, c'est le stabilisateur. Donc lui, c'est l'hyper organisé, mais l'hyper inquiet en même temps. Donc si on sort de ces rails, oulala, ça peut vite partir en vie. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu tout, mais en général, on a une dominance. Et en fonction, par exemple, voilà, celui qui est sérotonine et les pulsions sucrées, il va vite se reconnaître. Je soupçonne un peu de sérotonine en toi si tu as la pulsion. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a des questionnaires, en fait. Je n'ai plus le nom du questionnaire en tête, mais il y a un questionnaire qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Et il y a, je crois, une centaine de questions. On y répond et après, on a le type qui se dégage, qui ressort à la fin du questionnaire. C'est très intéressant à faire ça.
Et alors, est-ce que justement, quand on connaît son type dominant, plus ou moins, ça devrait nous influencer sur des aliments, sur des manières de manger, sur des choses sur lesquelles on doit faire plus attention que d'autres?
Oui, c'est un petit peu ça. Par exemple, celui qui est plutôt sérotoninergique, faut vraiment qu'il pense à avoir suffisamment de tryptophane pour avoir cette sérotonine-là. Et parce que le moindre dérèglement peut impacter son sommeil. Donc, il y a des choses effectivement à privilégier en fonction de son terrain. Le GABA, il va être aussi, par exemple, il aura tendance à beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Donc, il faut énormément penser à sa vitamine B, à son magnésium pour le GABA. Voilà, il y a effectivement des points en micronutrition qui se rejoignent. Et après, ce qui peut être utile et ce qui peut venir soutenir, c'est les plantes adaptogènes dans l'équilibre de ces neurotransmetteurs. Et ça, les plantes adaptogènes, elles ont beaucoup de bienfaits. Et c'est vrai qu'en fonction de certains types, par exemple, la rhodiole chez le dopamine va être très intéressant. Parce que la rhodiole, elle peut avoir aussi une action sur l'aspect physique, l'aspect je rentre dedans. Donc, quand un dopamine va développer pas mal d'anxiété, la rhodiole va être très intéressante. Donc, oui, on peut utiliser ces différents types pour ajuster un petit peu parfois les conseils.
Moi, j'ai retenu que quand même, d'après ce que tu m'as dit, ma petite banane au goûter avec quelques
Oui,
amandes, a priori, je suis pas mal.
c'est ça. Pour le sérotonine énergique, c'est parfait puisque voilà, on a du tryptophane, de l'oméga-3. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ne pas oublier d'avoir un petit peu de glucides le soir à son repas pour ce tryptophane-là, pour que ce tryptophane se transforme en sérotonine.
Bon. Je peux pas finir un épisode comme ça. Maintenant, j'ai un truc rituel. Je suis en train de fonder une sorte de club, le club des amoureux du beurre de cacahuète. Alors, il y a plein de gens qui disent eh, c'est pas un aliment en santé, etc. Il y a des gens qui disent comment on a pu transformer un truc aussi gras en aliment en santé, etc. Et moi, je dis mais c'est plein de protéines. Alors, ça devient un rituel un petit peu. Mais je t'ai entendu prononcer le mot hier quand je regardais la vidéo avant de préparer l'épisode. Donc, je me dis. Quand même, il faut que je te pose la question, qu'est-ce qu'on pense du beurre cacahuète?
Alors, moi, je suis pas une grande fan du beurre de cacahuète, mais encore une fois, ne rien s'interdire, c'est le but. Le beurre de cacahuète au goûter, très intéressant, puisque à la fois toujours c'est acides gras et un petit peu essentiel, effectivement des protéines, mais aussi plein d'autres micronutriments qu'on retrouve dans les oléagineux, quelques fibres aussi. Donc moi, je dis oui, accompagné par exemple, pourquoi pas d'un fruit. Et en fait, y a quand même, c'est quand même assez gras, donc il faut quand même un bon foie pour métaboliser les lipides. Juste voilà, voir par rapport à sa condition, si on est bien capable de métaboliser, surtout si on en mange tous les jours. Mais une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci.
Bon, allez, tous ceux qui en mangent tous les jours, il y en a qui écoutent le podcast, qui se reconnaissent parce que des fois on compare les pots de cacahuètes, à quelle vitesse ils baissent, ils augmentent, etc. Et tout. Il y en a chez qui ça va très vite, hein, je le dis.
J'ai un petit conseil quand même à donner, c'est d'alterner les purées d'oléagineux.
Ouais.
De ne pas rester tout le temps sur la cacahuète, un peu d'amande, un peu de pistache, un peu de noisette, voilà, d'alterner un petit peu les oléagineux.
Ouais, surtout qu'en plus, pour ceux qui n'ont pas regardé, l'amande en protéines, on est pas mal aussi. Hein. Franchement, sur de la purée d'amande, en protéines, on n'est pas si loin que ça de la cacahuète. Hein. Soyons honnêtes. Hein.
Un peu moins gras.
Ouais. Puis, un petit truc aussi, pour ceux qui aiment bien, une petite datte avec de la purée d'amande, c'est super bon. Et là aussi, je me dis qu'on est pas mal, non? Quand on a ce genre de choses en collation, qu'on cherche des collations un peu, qui amènent un peu de gourmandise, un peu de choses comme ça. En plus, on a quelques fibres, un peu de sucre et tout. Non?
Oui, je pense que la tartine beurre d'amande ou beurre de cacahuète banane, je valide.
Bon, bah écoute, super. Ça, c'est validé. J'ai un dernier mot quand même, parce qu'on n'a pas parlé de sport, mais parce que le principe, c'était de dire aussi que tout ça, c'est pour être en forme, la base. Et que derrière, Anthony Berthoud, l'autre jour, dans l'épisode, disait la nutrition santé, la santé, enfin, tout l'aspect dont on a parlé, c'est pour être en forme. Et puis dessus, on va rajouter la petite cerise pour être le côté sportif, en fait.
Oui.
Est-ce que, justement, ces histoires de neurotransmetteurs, de tout ce dont on a parlé, dans la pratique sportive, et quand on veut faire de la compétition, mais même sans parler d'être à haut niveau, mais on veut se lancer des petits défis, on veut faire des courses, on veut faire des choses comme ça, est-ce que ça prend encore plus d'importance? Est-ce qu'il faut faire des choses encore plus particulières, faut les étudier de manière plus particulière ou pas?
Non, je le verrai pas comme ça. En fonction de son type, c'est vrai que l'alimentation, en fait, le sport pour moi, c'est même plus une cerise sur le gâteau. Je pense que ça devrait faire partie du quotidien de tout le monde si on veut pas être malade et si on veut bien vieillir. Donc, j'ai pas envie de déséquilibrer le mode, enfin le quotidien de chacun pour se dire, eh ben il faut peut-être augmenter. Je pense qu'il faut faire attention à ses apports, mais il faut avoir à la fois toujours ces bons micronutriments, ne pas manquer de micronutriments
Ouais.
pour pouvoir faire du sport. Donc ça c'est hyper, et encore moins manquer de protéines si on veut faire du sport. Donc effectivement, on peut faire des ajustements par rapport à certains apports pour faire du sport, mais après c'est globalement le même équilibre, mais je suis un peu plus, je pense que le sport devrait faire partie de notre mode de vie, ce n'est pas, ça ne devrait pas être une option.
En fait, il ne disait pas dans le sens que c'était une option, il disait que tous les efforts de nutrition sportive, tu sais, tous les petits détails dans lesquels on va aller chercher, les trucs en glucides, est-ce que je dois manger de
Ah
ça, est-ce
ouais.
que je dois prendre ça, est-ce que je dois prendre du jus de betterave? Attends, on m'a parlé encore du jus de betterave hier. Pour les coureurs, pour l'endurance, le jus de betterave. Les Américains, ils aiment bien le truc de, comment ça s'appelle, le lot des cornichons. Tu sais, contre les crampes, par exemple. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Eh ouais, non mais dans le sport d'endurance, il y a des trucs, hein, franchement, ils mangent des trucs bizarres, hein, certains. Et j'ai eu plein d'invités qui ont testé ça. Et tu vois, des produits, tu peux trouver, tu vas dans un magasin de running, tu vas trouver du jus de betterave, tu vas trouver des trucs comme ça. Et en fait, c'était plutôt dans ce sens-là de dire, là, on va dans des détails où franchement, il n'y a peut-être pas besoin d'aller toujours là-dedans. Si on fait la base, et si on ne fait pas la base, aller dans le détail, ça ne sert à rien.
Voilà, en fait, je reviens toujours à la même chose. Si vous rajoutez une charge mentale en plus pour y arriver, à mon avis, c'est plus compliqué qu'autre chose. La base, micronutriments. Ne manquez pas de micronutriments. Mais vraiment, si dans quelques situations que ce soit, encore plus. En fait, le sportif, il faut se dire que effectivement, il va avoir besoin de plus de ressources qu'une personne non sportive. C'est aussi ça qui veut se dire. Donc, il y a des choses à faire dans son assiette, il y a des choses à faire en supplémentation, des choses qui peuvent être très intéressantes, la glycine, la créatine, la glutamine, tout ça, ça peut être très très intéressant. Bien employé, bon dosage, au bon moment, ça peut aider, effectivement. Mais après, moi, j'irais juste faire attention aussi à son microbiote et à ses intestins parce que le sportif vraiment pousse, en fait, enfin, met à mal ses intestins de manière très fréquente. Donc ça peut être un impact, ça peut avoir un impact sur le microbiote. Donc juste faire attention aussi à son microbiote. Et encore une fois, si on a des bons apports en protéines, en glucides, en micronutriments, bah, vous pouvez être paré, effectivement, à avoir une bonne performance sportive.
Eh ben écoute, c'est parfait. Parce qu'en plus, tu me fais le lien avec un épisode précédent, on avait parlé de microbiote et de sport. Ça tombait bien.
Ah oui.
Et on va en reparler bientôt, parce que mes deux invités, waouh, on a fait qu'une heure sur le sujet, on va en faire une petite heure de plus et tout.
On peut en parler pendant des heures, hein, de ça,
Et
du micro.
exactement. Et puis en plus, tu as validé aussi ma philosophie SAM, enfin SAMI, sommeil, alimentation, mouvement, avec le I de idée pour tout ce qui est mental et le stress en fait partie. À quel point on a besoin de gérer tous ces éléments-là. C'était vraiment un plaisir de discuter de tous ces sujets-là avec toi. C'est des sujets inépuisables en plus, on ne se rend pas compte. Si on veut creuser plus, et au début, tu as parlé de ton compte Instagram, mais tu n'as pas parlé de ton livre en fait.
Ah oui, tu as entendu que j'avais. Oui, j'ai sorti. Enfin, il n'est pas encore sorti à l'heure où je te parle, mais il sort le 27 mars. Et c'est un petit peu une compilation de ce que je dis et ce que je répète vraiment au quotidien. Et de ces piliers, donc tu as cité, comment tu dis ça, Samy?
Samy, sommeil, alimentation, mouvement. Et mouvement, il y a la marche, mais aussi le NEAT, il y a aussi le sport, bien sûr. Et I de idée, hein, pour tout ce qui est partie mentale.
J'adore. Donc ça, et c'est complètement intégré dans ce livre-là. C'est vraiment les outils que moi je peux utiliser, donc soit en consultation, voilà, soit sur mon compte Instagram pour faire de l'information générale. C'est partir de cette base-là. Et si on n'a pas cette base-là, c'est compliqué après d'être en santé ou simplement pour bien vieillir et pour optimiser sa santé, ayez cette base-là. Donc c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien. C'est pour ça que j'ai appelé ça mes gestes naturaux. Et donc, sommeil, marche. gestion du stress, alimentation, et après, il y a les outils, les supports, que ce soit les plantes, les huiles essentielles, la gémothérapie et la micronutrition, donc certains compléments, qui peuvent être utiles. Et j'ai décliné ça sur 4 semaines. Anti-fatigue, anti-stress, confort digestif et puis beauté de la peau.
Eh ben écoute, c'est un sacré programme en tout cas. Moi bien sûr, je mets tous les liens, notes de l'épisode. Et puis quand les gens vont écouter cet épisode, il est probable que ton livre soit juste en train de sortir. C'est-à-dire que on va être pile, pile, pile poil, vraiment pile poil dans les dates de diffusion. Donc c'est pour ça que je voulais pas qu'on l'oublie non plus. Moi je mets tous les liens, notes de l'épisode vers le livre parce qu'il est en précommande. Hein, de toute façon, au moment là où on enregistre, j'ai vu le lien tout à l'heure en précommande. Je mettrai les liens aussi vers, bien sûr, vers son compte Instagram pour suivre, hein, pour avoir les conseils parce qu'il y a effectivement beaucoup d'informations. Je te remercie beaucoup pour le temps passé. C'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Je vais Ça fait des liens avec tout un tas de choses dans les anciens épisodes, dans tout un tas de choses. Et c'est pour ça que je dis que je suis en train de mettre en place un espèce d'outil pour avoir des liens qui vont faire une cartographie de tous les sujets. Parce que c'est vrai que les neurotransmetteurs, on en a parlé. Il y a un truc qu'on n'a même pas dit en plus, c'est que les neurones, on en a beaucoup dans la tête, mais on en a beaucoup dans le ventre, dans les intestins. Ça, on l'a même pas dit. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, mais ça fait partie aussi hein, de l'importance. Hein, on ne se rend pas compte à quel point c'est un élément qui est important. En tout cas, tu nous as bien expliqué tout ça. Je te remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et puis un bon succès pour ton livre. Et puis nous, écoutez, on va se retrouver très très vite avec de nouveaux invités. Et puis aussi des petites capsules aussi, si on reviendra sur certains sujets. Je suis en train de vous préparer un petit peu la suite du podcast, l'évolution du podcast. Vous allez voir, il y a des trucs sympas qui arrivent. Et avec des sujets, on parlera aussi bientôt de tout un tas de choses qui seront aussi encore bons pour le microbiote, pour le sommeil, pour tous ces sujets-là. En tout cas, Anne, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Merci à toi pour l'invitation.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.